Vous écoutez
RMC. RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h03, Tim Dugas continue, reprend pour sa deuxième heure avec Jean-Louis Tour, toujours là mon Jean-Louis.
Bien sûr.
Nous accueillons du beau monde, oui. Comme hier,
oui, parce qu'on n'a pas fini hier.
Les mêmes titulaires qu'hier.
Voilà.
On n'a pas fait rentrer de remplaçants parce que c'était tellement exceptionnel hier qu'on a décidé de garder les mêmes. Donc Daniel Riolo, Gilbert Bribois, Daniel Riolo,
oui.
Roland Courbis,
oui.
Paul Breitner et Julien Cazard. C'est ça?
Bonsoir à tout le monde.
Voilà,
bonsoir,
salut les copains,
bonsoir amis.
À tous.
Bonsoir.
Pour un petit set.
Salut.
Là, bienvenue les gars.
Si vous êtes tous de retour ce soir, c'est la faute de Polo. Polo a dit non mais c'est pas
grâce
possible.
Grâce à Polo, c'est une chance.
Oui, c'est une chance quand même. Grâce à Polo.
Eh oui, parce qu'on n'a pas tout dit hier sur France-Allemagne 82.
Bah déjà, maintenant qu'est-ce qu'on apprend? Parce qu'on a appris qu'il n'y avait pas faute hier.
On ne peut pas tout dire puisque c'est l'histoire de notre football.
Oui, surtout on apprend des choses, t'as raison.
Ouais, j'ai appris qu'il n'y avait pas faute et maintenant j'ai envie d'apprendre autre chose maintenant. Que c'était une fausse moustache qu'il avait, Schmarrin.
C'est possible.
Moi j'ai été surpris. Non,
mais dans le contexte de l'époque, la moustache n'est pas
pareille. Mais vous voyez ça avec le contexte d'aujourd'hui, on ne met plus de moumoute. Mais à l'époque.
Oui, Polo.
Oui, moi j'ai été très surpris de voir que Patrick Battiston était encore titulaire en 1986, parce que j'avais cru qu'il était décédé en 82, à vous écouter. Donc je comprends pas tout.
Alors il était titulaire en 86, mais
bien il est invité, il est là ce soir.
Il y a juste les dents qui avaient changé. Alors on va faire France-Allemagne 86 également tout à l'heure, mais on n'a pas tout dit donc sur le France-RFA de 82 à Séville.
Bonne balle de Platini pour Battiston. À côté. Aïe, 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 c'est pas vrai. Et encore une fois, Schumacher. Il n'a pas fait le voyage.
Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez.
Oui, il est fou, oui, ce Schumacher.
Oui, que voulez-vous, monsieur Corver? Honte à vous.
Oui, Marius a raison.
Oui, Marius.
Reprise de volée.
En retrait pour Giresse.
Oui, en retrait pour Giresse. Oui, bien joué. Giresse qui marque le troisième but sur ce centre en retrait.
Et que nous sommes au coup de pied au but. Voilà.
Et c'est fait.
Une épreuve que tout le monde redoutait.
Oui. Oui. Bravo Ettori.
Ce n'est pas fini.
Aïe.
Quel chat noir c'est.
Raté. Roubaix. Ettori. But. Et voilà. C'est fait.
Terrible pour les 13 Français qui ont participé à ce match.
C'est la très très dure sanction de ce match de Séville que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
Eh ben oui, parce qu'on en parle toujours aujourd'hui, les commentaires de l'époque de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Voilà, les coups de pied de but n'ont pas été favorables à la France. Bon, le match, on en a parlé hier, on vient de le résumer là à l'instant, donc on va plutôt s'intéresser aux conséquences de ce match. Et quand j'ai annoncé ça tout à l'heure à 18h, Dugas, tu voyais pas du tout le lien, en fait.
Non, mais je vais écouter.
Alors, Daniel, est-ce qu'on peut dire que ce France-Allemagne 82 a eu des conséquences sur la suite? Alors, pas forcément en 86, mais sur la suite du développement du foot français, avec peut-être parfois un jeu moins romantique et plus pragmatique.
La suite de la Coupe du Monde aussi. Parce que je pense que les Italiens, dans un Italie-Allemagne, ben je suis pour les Italiens par rapport à mes deux grands-mères, mais je crois que les Italiens sont contents de ce match.
Alors là, coach, ça n'a vraiment absolument rien à voir avec ma question, on est d'accord.
On va refaire un débat demain, je pense.
Mais il nous manquait des choses de cette Coupe du Monde.
Je note ça, coach,
avec une finale où il n'y a même pas eu photo pour moi.
Bon, on reviendra sur la finale après, coach, pas de souci. Daniel.
Là où Roland a raison, c'est que c'est vrai que pour la finale, de façon assez, je dis pas surprenante, mais en tout cas, il y avait une unanimité à ce que toute la France, c'est vrai, a supporté l'Italie au moment de cette finale comme une sorte de vengeance.
Oui. Puis on les aimait bien, les Italiens.
Grâce à celui qu'on appelait encore à l'époque le cousin transalpin.
Ah, le titre de France Foot, c'est Justice est faite, Polo, c'est ça?
Je parle sous le contrôle de Daniel, c'est pas Justice est faite, le titre
Moi,
de
j'ai
France
souvenir,
Football.
Moi, j'ai souvenir d'un autre, mais c'était pas dans l'équipe, c'était vengé par nos cousins transalpins.
Ouais.
Ah oui. Ça, ouais, je me souviens de ce truc.
Ils avaient oublié que, ils avaient été plus potes à une époque qu'avec nous, quand même. Excusez-moi, ils avaient la mémoire courte, les mecs.
En l'occurrence, footballistiquement.
Oui, footballistiquement, on va dire footballistiquement, alors.
Alors, pour les conséquences, en fait, ça faisait déjà. Alors, ça n'avait pas forcément impacté la sélection d'Hidalgo, qui était quand même au niveau du jeu. je vais pas refaire le côté les Brésiliens de l'Europe, surnom qui viendra plus tard. Mais de toute façon, la France a toujours cherché à copier ce qui se faisait à l'étranger. Donc on était déjà dans une période où il y avait beaucoup d'interrogations sur comment jouent les Allemands, et on voulait leur piquer leur côté un peu discipliné, rigoureux, enfin les vieilles images qu'on avait sur eux. Mais ça, ça datait déjà de l'épopée de Saint-Étienne qui avait perdu contre le Bayern. Donc on était déjà un petit peu dans cette phase de réflexion d'être un petit peu plus costaud sur le terrain. Non, les conséquences, c'est les retrouvailles. On n'aurait jamais imaginé que 4 ans après, l'occasion était donnée d'une vengeance en direct, après celle des cousins de 82. Cette demi-finale en demi, et ce que j'avais trouvé, moi, complètement stupéfiant, et là, Polo, ça va forcément l'amuser et le faire ricaner, c'est que non seulement tu savais ce que les Allemands étaient capables de faire, t'avais morflé avec Saint-Etienne, t'avais morflé en 82, et cette demi-finale, dans l'euphorie de ce qui s'est passé en quart contre le Brésil, les Français pourtant fatigués.
Oui, mais alors, attends, Daniel, pardon. On va y revenir en détail là-dessus. Il y a aucun souci. Mais juste quand même, avant, moi, j'ai quand même dans la tête le souvenir des mecs de 98. Donc, ça tombe bien que Dugas soit étonné par tout ce que je dis. Mais moi, je me souviens quand même que la génération 98 a grandi avec le traumatisme de Séville 82, où, en gros, à un moment donné, il faut savoir aussi fermer la boutique, arrêter d'attaquer à tout va. Et ce pragmatisme a été développé.
Mais ça, c'est franchement, c'est pas 98,
Jean-Louis, déjà.
C'est
pas
développé, c'est débloqué par le fait qu'il joue tout ça en Italie.
C'est développé par l'Italie. Quand les grands modèles du foot français, il y a celui de l'Allemagne dont je t'ai parlé. C'est celui de l'Allemagne dont je t'ai parlé. Et ensuite, il y a eu le modèle italien. Le modèle italien, c'est Tapie copie un peu modèle italien. Ouais. C'est le réalisme. C'est effectivement France 98 est nourri du football italien, et c'est ça que tu retrouves d'ailleurs. Le quart de finale de 98, c'est un peu on bat notre maître, quoi. Les Allemands à ce moment-là sont un petit peu oubliés à ce moment-là quand même.
Ils sont nuls. Hein.
Alors en 98, on est déjà agréablement surpris d'être qualifié. Alors donc puisque c'était quand même le problème.
Je suis au Stade de France.
Oui, Polo.
Je suis au Stade de France pour ce match France-Italie qui est fou en fait.
Oui.
Parce que évidemment il n'y a pas une équipe qui est supérieure à l'autre, ça se joue à rien du tout. Lorsque les Italiens attaquent, il y avait un contre notamment, il n'y a plus un bruit dans le stade tellement.
Oui, l'occasion de Baggio.
Je peux t'assurer que nous en tribune on flippait, mais c'était comme pas possible. Quoi, je vais rester poli.
Bon là on a dévié.
Hein? Non, on a dévié, mais si vous me dites,
je croyais que tu allais me parler de la Bulgarie qui avait éliminé l'Allemagne, donc je comprends pas.
Non. C'est-à-dire.
Non, je vois pas plus loin. Moi, dans les conséquences, pour l'instant, il y a un match dont on parlera peut-être tout à l'heure, que moi j'appelle un petit peu le petit frère de France 82. Si on oublie donc visiblement la demi-finale de 86, parce que tu vas en parler plus tard.
Ouais.
Le petit frère de 82. Je pense que tout le monde a en mémoire ce match qui est Auxerre Dortmund de 93.
Ah bah oui.
Cette demi-finale est complètement folle parce que finalement, même si beaucoup de joueurs français commencent un peu à partir à l'étranger, on est encore dans un football assez national avec les mecs qui jouent dans les pays. Auxerre en France à ce moment-là représente d'abord et aimé de toute
le
la
terroir,
France
un peu.
Parce que c'est le terroir, parce que c'est le bon sens populaire. Giroud est une idole pour tous ceux qui aiment le foot en France parce que il a justement ce côté le football paysan. Ce qu'on aime en France, c'est-à-dire le petit qui réussit, c'est ancré dans notre mémoire collective, dans notre mémoire footballistique. Et on retrouve des Allemands en demi-finale, et ça se termine de la même façon après un match épique, parce que le match retour il est fantastique à la Baie des Champs, et ça se termine au péno. Il y a le gardien de Dortmund, comment il s'appelle, Polo, qui a une tête pareille un peu de pas mec gentil.
C'est pas Klos.
C'est Klos, oui.
Klos.
C'est ça. Il y a Maé qui rate le péno et il a une tête
de
petite victime. Je crois quand même qu'il a une attitude qui ressemble un peu à celle de Bossis.
Ça c'est pas le retourné de l'Aslande.
Non, c'est après, 97.
Cette demi-finale au Auxerre Dortmund, elle est quelque part un peu le petit frère. Okay. C'est encore une fois les Allemands qui te plantent dans une demi-finale de club, et il est vraiment ce match-là. Je ne sais pas si vous, Dugas, Roland, vous vous en souvenez, mais émotionnellement, il est très très fort.
Et c'est encore les Italiens qui nous vengent derrière.
Oui, mais alors là, c'est pas du tout la même chose. Non. Mais le Auxerre Dortmund, il était
fort. D'accord, donc pas plus
et beaucoup
de conséquences
parlé,
que ça.
Okay. Beaucoup de gens avaient parlé d'ailleurs et avaient fait un revival France 82. Encore les Allemands en demi, et la France représentée par le petit AJA qu'on aimait tous, quoi.
Et Dugas, quand t'as commencé, toi, à jouer, est-ce qu'on te parlait parfois de ce France-Allemagne 82 ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Non, d'accord.
Non, j'avais 10 ans, moi. Voilà, après, quand je l'ai vu, après, quand. Pff, on parlait beaucoup des clubs, quoi. Ouais. C'est l'équipe de France, elle, enfin, moi, j'ai souvenir qu'elle gagnait pas grand chose, même s'il y avait des joueurs, de légende pour nous. C'était des références. Moi, j'avais la chance d'avoir Alain Giresse comme modèle. À chaque fois, j'allais voir les matchs à Bordeaux, qui était là, Tigana également. Enfin, voilà, Batiston, Marius Trésor. Moi, j'avais la chance de les côtoyer. Donc, j'étais plus proche de mon club que de l'équipe de France. Donc,
quand t'as perdu ta finale contre les Allemands du Bayern, il y avait pas cette atmosphère-là un peu, le côté inéluctable.
Ils ont tellement été au-dessus, sincèrement, sur l'aller-retour. Ils sont beaucoup plus forts que nous. On sent bien qu'on est là.
Mais le côté allemand, il y a pas le côté ils vont gagner, c'est les Allemands. Il y avait pas ça. Moi, c'est ce que j'avais ressenti à l'époque.
Moi, j'ai toujours, tout au long de ma carrière, je l'ai plus ressenti sur les Italiens. Les Italiens, j'avais jamais l'impression qu'ils étaient incroyables, que c'était des phénomènes. Et t'avais
sauf que tu les as battus.
Oui, on les a battus, mais on a mis du temps avant de les battre. Je trouve que c'était
peut-être aussi parce que toi, t'as été
compliqué.
Toi, t'as été marqué par le Juve Bordeaux. Tu parlais des clubs qui marquaient plus que la sélection. C'était pour ça aussi.
Oui. Et puis, je me souviens d'un match à domicile contre l'AS Roma aussi, très compliqué, où l'AS Roma était en plein bourg. Voilà, le Milan, on se fait sur ce fameux match de 96 à l'aller, on se fait éclater 2-0. On les trouve pas extraordinaires, mais bon, un coup de pied arrêté de Baggio plus un autre but, je me souviens plus de qui. Ben voilà, c'est une évidence que les Italiens, beaucoup plus que les Allemands, j'ai pas souvenir que les Allemands pour ça.
Et quelles conséquences ce France RFA 82 pour le foot allemand, Polo?
C'est terrible en fait. C'est terrible parce que pour la première fois, le foot allemand se rend compte que la victoire, il y a une expression d'ailleurs, c'est chaque victoire n'est pas un gain. C'est-à-dire que le football allemand et les techniciens ont tellement été impressionnés par le jeu français qu'on s'est dit que du côté des Allemands, qu'ils étaient complètement retardataires par rapport à l'évolution du football. C'est évidemment le retour de l'arrogance.
Attends, pardon, juste quand tu dis chaque victoire n'est pas un gain, ça veut dire c'est pas parce qu'on gagne le match qu'on a raison et qu'on est dans le vrai.
C'est ça. Et en fait, ça fait suite à certaines déclarations, par exemple comme Lothar Matthäus, qui vous savez que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le match France-Allemagne, ça c'est côté français, mais France-Allemagne, en Allemagne, ça fait partie d'un contexte qui est la Coupe du Monde 82, où il y a la défaite contre l'Algérie, où il y a le fameux match contre l'Autriche, ce qu'on appelle le match de la honte en Allemagne, on appelle ça le pacte de non-agression. Et tout ça fait que, il y a des déclarations de joueurs qui ne sont plus du tout intéressés par le maillot national. C'est l'histoire de Matthäus qui, lorsqu'ils sont passés en 8e, dit de toute façon, tout ce qui compte, c'est de passer. Il y a Dremler qui déclare que de toute façon, suite encore une fois au match France-Autriche, qui déclare que moi, le prestige de la sélection nationale, j'en ai rien à faire, je suis un professionnel. Et donc, on se rend compte qu'ils sont en train de se casser complètement avec les fans allemands en plus. Donc, l'histoire de l'arrogance, elle a fait du mal, évidemment, par rapport au monde qui a regardé cette Allemagne-là, la RFA, qui est évidemment ce que les Anglais ont appelé la Dirty Germany, c'est-à-dire la sale Allemagne, etc. Référence à la période 33-45, évidemment. Et puis, ça a fait beaucoup de mal en Allemagne, parce que les gens les joueurs pensaient qu'ils allaient revenir en héros, parce qu'ils ont été en finale quand même. Et puis finalement, il y a eu un vrai rejet de cette sélection.
En fait, on retient plus le mauvais match que l'exploit de revenir en prolongation de 3-1 à 3-3.
Alors sur l'instant, évidemment la finale, quand ils sont en finale, quand tu vois tous les médias de l'instant qui disent on est en finale, ça se finit en 8-7 avec les Allemands ont une façon de calculer les buts plus les pénalties, donc ça fait 3-3, ça fait 3-3 et 5-4 si je me rappelle bien, donc ça fait 8-7.
D'accord.
Et donc c'est comme ça, il dit Endspiel, on est en finale, etc. Et puis 24 heures, 48 heures après, il y a énormément de critiques sur ce qui s'est passé, et c'est l'après Coupe du Monde qui va être terrible, parce que ce qu'on oublie, c'est que Joop Derwall, le sélectionneur, sera viré en 84 suite à l'Euro 84 où les Allemands ne sont pas en demi-finale. Et en fait, ils payent les excès de 82 et non pas sportivement ce qui s'est passé en 84.
D'accord. C'est quand même fort quand même de se dire on va réfléchir à notre qualité de jeu quand on gagne. Ils n'auraient pas gagné, ils étaient en finale. Ouais. Attends, ils sont en finale, ils réfléchissent. Ça, c'est quand même.
Excuse-moi,
c'est la finale, Christophe, qui leur fait mal. Ouais. La finale, ils n'existent pas. Contre les Italiens.
Oui, mais tout remettre en cause sur le match.
Alors, moi, j'aime bien qu'ils aient remis en cause.
Comme si nous, on avait fait ça après l'Euro 2016 parce qu'on a perdu en finale et qu'on n'était pas bon.
Mais Polo, ils ont remis tout en question. Bah,
impensable chez nous.
8 ans plus tard, quand ils gagnent la Coupe du Monde avec Matthäus, j'ai pas l'impression que c'était flamboyant.
J'ai pas dit qu'au niveau de la fédération, ils étaient en train de se remettre en cause. Je dis qu'au niveau du public et des journalistes et des personnes qui suivent, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vois la sélection allemande de 82, mais tu peux voir celle de 86 aussi, ce qu'ils auraient pu produire comme jeu par rapport aux individualités qu'ils avaient et ce qu'ils ont produit. Il y a un grand débat en Allemagne après 82, si, dans les journalistes, c'est comment est-ce qu'on peut être aussi merveilleux à l'Euro 72 et 10 ans après être aussi merdique, excusez-moi l'expression, lorsqu'on voit ce qu'on produit comme football. Rappelez-vous, il y a que 3 joueurs à vocation offensive, Magath, Litzbarski et Klaus Fischer contre la France, alors que la France, elle a quasiment que des joueurs offensifs partout. Et donc, ça pose énormément de questions. Et en fait, c'est une sélection qui, à force de gagner, se nécrose complètement. Parce que regardez ce qui s'est passé dans les années 70 et les années 80. Les Allemands sont soit en demi, soit en finale, soit ils gagnent. Et c'est ce qu'on disait à l'époque. C'est-à-dire, quand on a une bonne sélection, eh ben, on gagne. Quand on en a une mauvaise, on est en finale. Donc, t'as pas envie de bosser, si tu veux. En fait, le football allemand ne travaillait plus.
Bon, très bien. Et
c'est on est en train de faire pareil. Nous, on a été mauvais en 2016, on est en finale. 2018.
Ouais, c'est vrai qu'en 1974, l'Allemagne gagne, mais on pense tous à ce qui s'est passé du côté des Pays-Bas.
Mmh. Bon, bah voilà, plus rien à rajouter sur 82 ?
Non.
Non, très bien. Polo ?
Ah, moi, je pourrais tout ce que vous voulez. J'adore, mais ce match, moi, France-Allemagne 82, c'est du sport, évidemment, c'est une compète, mais il y a un tel contexte que c'est extraordinaire. Quoi, ce que ça veut dire.
Et la finale,
moi,
Polo ?
À la finale, elle est, bon, déjà, les Allemands sont super fatigués, faut pas l'oublier. Et puis les Italiens sont montés en puissance. N'oublions pas, Roland, que l'équipe italienne de 82, c'est celle qui aurait, à mon avis, dû gagner l'Euro 80, mais il manquait Paolo Rossi. À l'époque, vous savez, il a eu un petit souci, puisqu'il avait été, exclu de la sélection italienne.
Et c'était Paris, les Allemands qui... Hein, Totonero.
Ouais, exactement. Déjà, et en fait, c'est la même équipe.
Déjà en 82, il y a quand même un exploit d'un sélectionneur, parce que ce que fait Paolo Rossi, plutôt ce que ne fait pas dans les matchs de qualification, et le maintenir, il faut lui tirer un grand coup de chapeau, parce qu'après c'est un autre Paolo Rossi qu'il y a dans les matchs décisifs.
Bah, si je me rappelle bien, l'Italie...
Il met que des doublés, je crois, après.
Oui, mais c'est après...
Il fait un massacre à partir des huitièmes.
Enfin, c'est pas vraiment des huitièmes parce que c'est une petite poule à trois.
Oui, c'est des petites.
Ou en fait, il ne marque qu'à partir du Brésil, hein, parce que contre l'Argentine, il ne marque pas.
Hein. Italie-Brésil, c'est
triplé contre le Brésil, deux contre la Pologne et un contre la Pologne. C'est ça, c'est 6 buts.
Ben ouais.
Et puis il y a quand même un but de Paul Breitner, c'est important, hein, bah en finale. Paul Breitner qui marque en finale, quand même. Ça, c'est moi, c'est ça qui m'intéresse.
Quand même.
Évidemment.
Ah oui.
Ce que je vous propose, on revient dans une seconde et on bascule sur 86, donc 4 ans après les retrouvailles entre la France et l'Allemagne. Le match sera beaucoup moins épique, hein, mais on va y revenir quand même dans une seconde dans Team Dugas tout de suite.
RMC, 18h-20h,
Team Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h25, Team Dugas continue avec Jean-Louis Tour, avec Roland Courbis, avec Polo Breitner, avec Daniel Riolo, avec Julien Cazard. Que du beau monde pour revenir sur le match France-Allemagne de 86.
Exactement, et puis on fera un blind test également dans un quart d'heure, donc 32-16 pour vous inscrire.
Je suis désolé, je te l'ai déjà dit hier, Jean-Louis, j'aime bien qu'on dise France RFA.
Oui, bonjour.
Pour moi, ça raconte quelque chose de bien dire France RFA.
Eh bien allons-y pour France RFA 86, donc à Guadalajara, au Mexique, dans le même stade qui avait vu ce quart de finale magnifique, donc auquel Daniel faisait référence. On l'a tous en tête, le France-Brésil, qualification au tir au but, peut-être le plus beau match de l'équipe de France dans une Coupe du Monde, non, Daniel, je t'entends dire ça parfois.
Le France-Brésil, ouais.
Enfin, de cette génération, en tout cas.
Ah, monsieur,
c'est sûr. Cette génération, c'est sûr.
Match en Coupe du Monde.
Ouais.
Ouais, parce que le France-Brésil 2006 est bien, mais ça vaut malgré tout pas celui de 86.
On est bien.
Bah après, on n'a pas un regard romantique aussi.
La finale de 98, par les émotions qu'elle procure, évidemment, ça fait quand même 3-0 au final. C'est lourd, c'est fort, c'est extraordinaire. Footballistiquement parlant, le France-Brésil 86 est supérieur.
Enfin, on n'est pas loin d'être dans les cornes quand même.
Et même en émotion, parce que le France-Brésil de 86, en émotion avec ce qui se passe dans le match, oui, plus la séance de péno à la fin, même en émotion.
Le péno raté, surtout. Même, hein. Le péno raté de Zico.
Zico, oui, est platiné pendant
la saison. Honnêtement, pour moi, c'est le plus grand match en Coupe du Monde. Ouais.
C'est donc après ce plus grand match que les Bleus disputent cette demi-finale donc face à la RFA.
Je voulais dire France-Afrique du Sud, mais je ne suis pas sûr d'être suivi.
Afrique du Sud, c'est bien pour l'ouverture.
Pour moi, c'est le plus grand match.
Quel sale type.
Non, là, c'était juste pour te réveiller. Il avait peur que tu
sois dans un peu. Non, mais je vous écoute, ça me plaît, ça m'intéresse.
Ah, voilà, c'est le but, hein, que ça te plaise.
Les auditeurs aussi, c'est le but.
Bien sûr. Donc, France-RFA. UEFA 86. Est-ce qu'il y avait vraiment ce climat de revanche 4 ans après?
Évidemment.
Ah ouais, bah ouais.
Évidemment, sauf qu'on l'a super mal abordé. Tout le monde y pense. Ouais. Mais le pire, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a cru 4 ans après, et malgré une expérience du foot et de la qualité des Allemands et de leur potentiel qu'ils ont toujours eu énorme, c'est de croire que ça allait être facile. Ça, oui, moi, je reviens toujours pas de l'approche de ce match, de se dire,
on a fait plus, le plus
avec
dur
la fatigue avec le Brésil. Avec la fatigue du Brésil, avec ce que ce match avait pompé comme énergie, de se dire, les Allemands sont moins forts, les Allemands ont pas l'air brillantissimes.
Et nous, on est plus forts aussi, peut-être. Parce que là, t'arrives avec des références. T'es champion d'Europe, Brésil, t'as sorti d'Italie, t'es champion d'Europe.
L'Allemagne a été nulle en 84, je crois. Enfin, ils pas
à l'Euro, ouais. Ils étaient cata à l'Euro. Non, mais comment on a pu aborder ce match aussi leur mal parcours, d'un point de vue psychologique? Ça,
c'est énorme. Si je me rappelle bien, il n'y a jamais eu de suspense. Hein.
Non, oui, sur le match, effectivement. Et Paulo, tu nous disais le parcours de l'Allemagne à cette Coupe du Monde n'est pas bon non plus.
Est catastrophique. Dans leur groupe, ils se font battre par le Danemark, ils finissent deuxième. Ensuite, en huitième, ils tombent le Maroc. C'est Matthäus qui marque à la 89e. En quart, ils passent au pénal contre le Mexique et ils arrivent en demi-finale en n'ayant pas joué un seul match correct. Et par contre, comme je te disais, Jean-Louis, je l'ai revu à midi ce match. Et ce qui est très intéressant, c'est non pas la violence des joueurs français, mais en fait il y a un nombre incalculable de tacles. Comme s'il fallait apprendre de 82 et entre guillemets répondre aux Allemands, comme si l'expérience passait que par la violence entre guillemets pour le.
C'est pas parce qu'ils étaient crevés. Quand t'es crevé, tu.
Non, mais ça se voyait.
Quand t'es crevé, tu finis là-dedans en général.
Oui, alors c'est ça. Les Français sont fatigués. Platini est blessé aussi, comme d'hab.
Platini,
comme à chaque Coupe du Monde.
Il joue toute la Coupe du Monde sur une jambe, ça c'est vrai. Louis, c'est un petit peu celui qui a pas vécu 82 sur le terrain et qu'en plus c'était un tempérament fougueux. Il en fait des tonnes et je crois qu'il prend vite un carton qui aurait pu le priver de la finale.
89e le carton, je crois.
On veut mettre un peu le pied. Quoi. On veut y aller quoi.
Je vous redonne la compo des Bleus. Donc, avec pas mal de changements quand même par rapport à 82. Donc, Joël Bat, c'est dans les buts. Donc,
c'est un nouveau.
Exit Jean-Luc Ettori.
Ça y est, on a un gardien excellent.
Qu'est-ce que j'aimais bien ce gardien. Joël Bat, c'était un sacré gardien.
Magnifique. Ah bah excellent face au Brésil en plus. Hein. Il va chercher un pénalty monstrueux.
Moins contre l'Allemagne.
Voilà, moi, j'allais venir. Moins contre l'Allemagne, effectivement.
Amoros. Il prend un lob, je crois, un peu miteux.
Ah non, il prend surtout un coup franc.
Un coup franc où il se déchire.
Ah ouais,
il fait brioche. Ouais.
Exactement. Donc, Bat dans les buts. Amoros, Batiston, Bossis et Ayash en défense.
Donc là, il y en a 3 sur 4 qui ont vécu Séville.
Exactement.
Pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout.
Le carré magique où Luis Fernandez remplace Gengini, donc aux côtés donc de Platini, Giresse et Tigana.
Donc là, 3 sur 4 encore.
Exactement. Et en attaque, donc là, 0 sur 2, Bellon et Stopira. Voilà. Sachez que Verkruis et Xuereb vont rentrer. Et côté allemand, il y a un petit renouvellement quand même,
ouais,
Polo.
Il y a un petit renouvellement. Bon, évidemment, c'est... Mais en fait, je voudrais juste rappeler 3 anecdotes qui me sont importantes, qui sont la suite de 82 et ce que se posait comme question Julien tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est une sale Allemagne aussi dans les couloirs. C'est-à-dire que Uli Stein, le gardien, a été renvoyé en Allemagne parce qu'il a traité de clown, le sélectionneur Beckenbauer. Il y a le sélectionneur qui a traité son attaquant Dieter Hoeneß, le frère d'Uli Hoeneß, d'idiot complètement, et sauf que Dieter Hoeneß, il a répondu en disant: je sais très bien comment tu es monté physiquement parlant et tu sais très bien que j'en ai des plus grosses que toi, donc ça se passe comme ça systématiquement.
C'est
bon.
Ça c'est l'Allemagne qu'on aime,
voilà. Et les Allemands, ils balancent des trucs à la gueule, c'est bien,
c'est
ça.
Génial,
j'adore. Et j'adore, moi. Et
Karl-Heinz von Rummenigge,
vous savez qu'il est souvent blessé aussi, Rummenigge, et il attaque ce qu'il appelle le clan de Cologne, c'est-à-dire les joueurs comme Schumacher, comme Klaus Allofs, comme Littbarski, etc., en disant que c'est à cause d'eux, parce qu'il lui envoie des mauvaises ondes, etc., et qu'il est blessé. C'est un peu spécial. Alors,
une belle bande de connards, quand même, hein.
Non, mais moi, j'adore. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, évidemment, dans les buts, c'est Schumacher.
Oui.
Il y a une défense à 5, en fait. Alors, il y a Karl-Heinz Foster qui est encore là. Il y a le défenseur central du Bayern, Eder, donc, qui est théoriquement associé à Eugen tout à l'heure, mais qui était sur le banc. Il y a beaucoup de joueurs d'Hambourg, avec Jacobs notamment. Il y a Brehme à droite et Brigel à gauche. Le milieu de terrain, c'est un joueur que j'adore, qui est Wolfgang Rolf, l'ancien joueur d'Hambourg. Il y a Matthäus qui joue à l'époque plutôt en numéro 8. Et puis il y a 3 attaquants qui sont Magath, Klaus Allofs et Karl-Heinz Rummenigge.
Ah, les jolis noms. On peut pas mettre du Wagner pendant que tu parles.
Et puis, le comment ça s'appelle, il y a Rudy Föhler qui entre à l'heure de jeu à la place.
Exactement.
Donc, il met le deuxième but.
Exactement. Alors, ce match aussi est moins resté, peut-être, je vous pose la question, dans l'imaginaire, parce que.
Il n'y a pas de match.
Déjà, alors, parce qu'il n'y a pas de match, mais aussi, le stade à moitié plein, j'ai vu. Genre, de manière assez incompréhensible, mais bon, il y a 35 000 personnes sur 75 000 possibles.
Donc, déjà.
Alors, pourquoi, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Vous savez pourquoi ?
Mais je sais pas. Non. Franchement, déjà parce que t'es pas en Europe. Hein.
Non, mais pour une demi-finale de Coupe du Monde.
Normalement,
quand même,
les demi-finales, c'est plein. Non, mais je me souviens d'une ambiance triste.
En bizarre. Plus, match mal retransmis en plus.
L'image est super terne. Ouais. Match effectivement retransmis bizarre. On a même l'impression que le maillot des Bleus il est complètement délavé.
Alors, je sais pas, pour montrer comment les Bleus étaient en blanc d'ailleurs. Comment les Français sont passés à côté, notamment en première mi-temps. Il y a une passe à 10 pendant un moment des Allemands et ça chambre dans le stade. C'est quand même assez rare, je veux dire, pour l'équipe de France de se faire chambrer ou parce que les autres font la passe, parce que les Allemands font des passes à 10. Donc c'est la première mi-temps française est catastrophique. Ils ont essayé de revenir en seconde mi-temps, mais en tout cas, il est évident que le match contre le Brésil était dans les jambes et voilà, c'est pas du tout la même chose.
Et dans la tête.
Et dans la tête. Et il y a des fautes techniques que j'ai rarement vu à ce niveau-là côté allemand et côté français. Platini rate beaucoup de choses. Oui. Il se casse la figure aussi sur le terrain. Il y a beaucoup de fautes techniques.
À un moment, il a un bon coup franc, les coups francs qu'il adore, et il le rate, mais jamais je l'ai vu rater un coup franc pareil. Ils sont tous super nerveux. Ils comprennent pas pourquoi ils arrivent pas à prendre leur revanche alors que ça leur a été promis. Je sais pas, c'est tout est
bizarre. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on abordait un France-Allemagne en étant favori? Franchement.
Aussi, il doit y avoir un peu ça. Mais
quand t'es champion d'Europe, t'es favori quand même.
Ouais, bien sûr. Non, mais ils étaient favoris. Mais toute l'approche est foireuse de se dire que ça allait tomber tout cuit. Parce qu'en gros, le destin avait été tellement dur 4 ans avant que ça allait tourner, que, on était plus fort qu'eux, que, enfin, tout est pourri dans l'approche de ce match.
Il y a le parcours qui
tu fais Italie-Brésil quand même.
Bien sûr, tu fais Italie-Brésil, t'es au
Il y a l'Union soviétique qui est monstrueuse à l'époque, la France tient le coup. Tu bats les champions du monde en titre en 8e, il y a le match contre le Brésil. C'est ça l'énorme paradoxe d'ailleurs entre 82 et 86, c'est qu'alors qu'en 82, la France n'a pas fait un parcours extraordinaire, il y a ce match magnifique, et là où elle fait un parcours extraordinaire, comme si elle jouait un tournoi de Roland-Garros avec des spécialistes de terre battue qui sont top 10 mondial, et ben là, elle rate le match qu'il ne faut pas rater, alors qu'elle est
son favori. L'erreur, c'est que l'Allemagne n'est pas impressionnante du tout dans les matchs d'avant. Et là, consciemment ou inconsciemment, on est favori, on se pense favori, mais c'est même pas qu'on se pense favori, on se pense vainqueur contre cette équipe d'Allemagne qui a du mal à éliminer le Mexique, le match d'avant, et qui est vraiment très moyenne.
Est-ce que le grand regret autour de tout ça, c'est pas Platini? Parce qu'il arrive là quand même avec ses ballons d'or, installé à la Juve, il a 29 ans, ça doit être la Coupe du Monde de Platini. Et à l'arrivée, il est blessé, c'est peut-être lui qu'on attend à ce moment-là, dans ce match compliqué, pour sauver tout le monde.
Platini, il est au bout physiquement, sa retraite va venir assez vite, hein, finalement.
Ouais, il est au bout, Daniel, mais rappelle-toi qu'il marque contre l'Italie, il marque contre le Brésil, t'as toujours l'impression que à un moment donné, il va quand même faire un truc.
Parce que tu attends qu'il te sauve, mais en fait, il est
là, non.
Voilà. Il marque contre l'Allemagne, mais il est hors jeu.
Oui, exactement. Oui. Il y a l'égalisation qui est refusée à ce moment-là, exactement. Puisque donc Brême ouvre le score à la 9e minute sur ce coup franc. Alors là, on se plaignait de Jean-Luc Ettori en 82. Là, Joël Batz, bon, il l'avoue d'ailleurs après. Hein,
il joue pas du tout en blanc, les Français. Qu'est-ce que tu m'as dit, Jean-Louis?
J'ai rêvé, en fait.
Je me suis dit, qu'est-ce que merde, je perds la tête.
Non, je suis daltonien.
Les Allemands en blanc. Par contre, les Allemands, je crois qu'ils jouent en vert en finale. C'est ça.
Oui, ils jouent en vert en finale. Ça, oui. Ça, les Allemands jouent en vert en finale. Contre l'Argentine, ça oui.
Ah, j'ai confondu avec la finale.
Effectivement. Coup franc, là, avec Batz qui fait, oh là là, c'est affreux.
Oui, alors le coup franc.
C'est la force de Brême aussi. Hein.
Non.
Brême, il est monstrueux. Non,
franchement, la frappe, elle est lourde.
Même toi, tu l'aurais arrêté, Jean-Louis.
Non, mais attendez, là, c'est une erreur de gardien. Je suis désolé pour Joël Batz.
Moi, je fais confiance à Jean-Louis.
Mais il n'y a pas de débat. Enfin, je ne sais pas, coach. Spécialiste des gardiens.
Par Bossis, alors c'est vrai qu'il avait. Je sais pas,
il est en jeu aussi.
Dans cette position-là.
Pour moi, 100% fautif.
Ah, Batz.
Oui, bien sûr qu'il est fautif sans le but, bien sûr. La frappe, elle a beau être lourde, elle lui arrive dessus.
Il est insupportable, ce polo.
Alors, on apprend un deuxième truc, parce que après, alors, les gardiens, c'est ton truc. Donc, il y en a un qui n'a pas fait faute en 82 et l'autre qui n'est pas fautif en 86.
Joël Batz n'est jamais fautif.
Et est-ce qu'il y a vraiment faute avant le coup franc? Puisque tous les Français se plaignent du coup franc à ce moment-là. Alors, c'est dans le contexte de l'époque. On se plaignait beaucoup de l'arbitrage, mais on voit tout de suite Platini, Tigana se plaindre, dire qu'il n'y a pas faute. Mais bon, Polo, il y avait faute.
Oui, oui, j'ai revu.
Non, mais Bats, il avait peut-être dû dire, tiens, Arconada est devenu célèbre, pourquoi pas moi.
Oui, il y a un côté Arconada, effectivement, dans le coup franc. Mais bon, c'est vrai que la frappe de Bremeux était forte. Donc ensuite, il y a peu d'occasions pour les Français, à part le but refusé à Platini.
Il y a quand même un Stopira qui se présente seul devant Schumacher à un moment. Et vous vous souvenez de cette image d'un moment, justement, Schumacher prend le ballon et donc Platini va poursuivre, éventuellement s'il relâche le ballon. Ouais. Et il fait mine de donner un coup de pied à Schumacher.
Ah oui.
Il retire son pied.
Voilà,
oui.
Il fait mine. Je vais merde. Je lui aurais bien mis un coup de pied dans sa tronche à celui-là.
Ouais. Alors il y a un raté aussi assez énorme. Alors vraiment, j'arrive pas à savoir qui c'est là. Je pense que peut-être vous allez pouvoir Daniel va peut-être pouvoir m'aider. C'est un coup franc joué avec une sorte de louche. Un joueur français qui la reprend et derrière le but est quasiment ouvert et
ouais, c'est
le Français
n'arrive pas à cadrer.
Ah, c'est le raté de Bossis, ça.
Il n'est pas hors jeu, Bossis, sur ce coup-là.
Si, il est hors jeu, Bossis.
Ah, je ne sais pas.
On va voir. Si, il est hors jeu.
Bon, très bien. Alors, Julien, là, hors micro, c'est très compliqué de t'entendre. Hein. On va pas se mentir, mais voilà.
Ça m'inquiète que tu ne reconnaisses pas Bossis, quand même, surtout.
Là, bah, excuse-moi.
Ah ouais, non, merde.
Bon, en fait, les Français poussent en seconde mi-temps. C'est,
bah,
c'est
encore heureux, quand même.
Ils tentent, et puis, bah, quand on tente, et ben, on peut se prendre des contres.
Exactement, et c'est
le deuxième. Il est d'une froideur, le deuxième.
Ah ouais, c'est dur.
Le deuxième, c'est vraiment. Mais allez, va-t'en, va jouer au
billet.
Oui, alors là, donc. Joël Bat, c'est toujours pas d'erreur, Polo ? Non.
Ah si, là, ouais.
Parce que là, il sort quand même très loin, hein, Joël Bat, qu'on aime beaucoup, hein, par ailleurs, hein, qu'on salue. Ah,
ouais, il est pas dans ce match.
Non, ouais, il n'y est pas, coach. Oh. Il n'y est pas parce que là la sortie il va à 25 mètres de son but et il se fait devancer par voleur. Bon, voilà, ça peut arriver aussi hein, de mal apprécier une trajectoire.
Non,
c'était rarement
à côté.
Bien sûr.
Enfin, là, si on passait là, vu comment on était cramoise, je sais pas ce que Maradona aurait fait de nous. Hein, je te dis franchement. Bon, parce que là, je pense que c'était la sienne. De toute façon, c'était sa Coupe du Monde. Hein. Donc, moi, j'ai aucun regret.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que derrière, il y a la finale contre l'Argentine.
On est sûr qu'il est hors jeu, Bossis, là. Je revois la
question. Bah, moi, je suis pas sûr, c'est pour ça, mais bon.
C'est parce que je l'ai revu ce.
Alors, attends, ça change tout, là.
En tout cas, il la joue comme s'il était en jeu. Donc bon, quoi qu'il arrive.
Mais t'as vu tous les scandales qu'on aurait pu faire, on n'a pas fait ça.
C'est vrai qu'on nous a un peu parlé de ça. Mais bon, s'il avait marqué, on aurait fait un vrai scandale. Là, il a tiré au-dessus, malheureusement. La finale, qu'est-ce qu'on en dit? Vous avez quoi comme souvenir aussi? Puisque
celle de 86,
ouais. Elle est magnifique.
La finale de 86, non seulement elle est belle, puis c'est le sacre de Maradona. Tu vois, c'est même s'il ne marque pas sur cette finale, il est partout, il est fort.
Enfin, puis une passe D.
Et pourtant, les Allemands arrivent à revenir dans le match.
Hein. Bah, en fait, c'est absolument. Ça. C'est que,
et là quand ils reviennent, je me rappelle les commentaires qu'on faisait devant la télé. une fois de plus, on les pensait cuits et ils vont gagner ce match quand ils reviennent.
Parce qu'il y a 3-2, ils mènent 2-0 dans ce match. Et les Allemands reviennent à 2-2 avant le but de Buru Chaga.
Je 94. Pense que c'est la dernière fois qu'un Nantais a fait gagner une Coupe du Monde sur un but en finale.
Jean-Louis, en Allemagne, par rapport à cette finale, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, les Allemands égalisent à la 81e face à Föller. Et ils ont tellement pensé la gagner à ce moment-là, la Coupe du Monde, en disant on va attaquer pour flinguer les Argentins. Que c'est eux qui se font contrer avec Maradona et Buru Chaga. Et ils se sont dit, on a été idiots, on aurait dû attendre tranquillement les prolongations parce qu'on sentait que les Argentins étaient cuits. Enfin, ça, c'est la version allemande. Et en tout cas, ils se sont précipités et voilà ce qui était arrivé.
Voilà. Bon,
je pense que le fait que ce soit Maradona qui la gagne, ça, en France, j'ai l'impression que ça a atténué un peu la tristesse. Il n'y avait pas la même. C'était pas la nôtre. Moi, c'est ce sentiment que j'avais. Après.
C'est une fin de cycle aussi.
Ouais, je sais pas. Malgré le Brésil, j'ai cette sensation-là à l'époque et que je m'étais dit, ouais, c'est celle de Maradona, quoi. C'est la Coupe du Monde de Maradona.
On sent tout de suite la fin de cycle à l'époque.
Absolument.
Ouais, coach.
Pardon ?
Oui, on sent tout de suite la fin de cycle.
Pour les Bleus ?
Oui, pour les Bleus, oui.
Si tu veux, on se pose la question quand même.
On se dit que Platini était tout jeune. Platini, on sait qu'il. Non, je sais pas si on sait qu'il va arrêter.
Platini, il a 29.
Parce qu'on l'apprend plus tard, il a encore une saison seulement. Non, attends, Platini, il arrête en 87.
En 87, oui.
Et oui, mais après, tu te rends compte qu'après, il n'y a plus de qualification.
Il a 31, puisqu'il arrête à 32 ans. Il arrête à 32 ans. Donc, il est né en
35. 31, c'est jeune quand même.
Oui, mais après, bon, comme il est blessé et qu'il ne veut plus jouer.
Ouais, coach.
Après cette Coupe du Monde, si je dis pas de conneries, il y a plus de qualification jusqu'à 98. Mais à 98, on ne s'est pas qualifié parce qu'on était.
Il y a la qualif pour l'Euro 92. Il y a la qualif pour l'Euro 92.
On fait carton plein.
En Coupe du Monde, il y a plus de qualif avant.
Coupe du Monde, non.
2006,
non.
En fait.
Ah non, la période qui suit, elle est terrible. C'est celle de. Dans Michel.
Bah non, t'es qualifié. T'as gagné la Coupe du Monde.
Avec le sac à merde de Cantona. C'est celle du match contre Chypre. C'est celle de. Ah non, la période qui suit, elle est terrible. Avec tous les successeurs de Platini qui ne s'imposent pas, les Vercruis, Ferreri,
mais c'est vrai que
Bravo.
Platini qui devient sélectionneur sans expérience.
Oui.
Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte que nous, par exemple, notre génération, pas la tienne, Jean-Louis, celle qui est juste avant, et on a vécu notre enfance, notre adolescence sans Coupe du Monde. C'est-à-dire que 12 ans, sans voir la France en Coupe du Monde, c'est incroyable en fait.
Bah, c'est pour ça qu'en 98, ça a été encore plus retentissant.
Bien sûr.
Oui, et que vous avez une pression énorme au début.
Ouais, mais là où par rapport à ce que dit Julien, je suis pas tout à fait d'accord, c'est que on était habitué de ne pas. Moi,
Moi, je suis né au foot avec 82 et 86, donc j'étais habitué après. Hein.
Bah oui, mais je suis un petit peu avant, peut-être, je sais pas. T'es né en quelle
année ? Moi, je suis 74. Hein.
Ah, 71, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'en suis encore avec mon père à me poser les questions quand qui on prend en qualif, quoi. C'est-à-dire que on déconne avec les matchs contre
difficile, mais il n'empêche que la France
a commencé à devenir.
Il y a, tu vois, 78 est allé, 82, 86.
Bah oui.
Il commençait à y avoir un truc. Le fait de pas y aller en 90, c'est comme si tu retombais dans les années noires qu'on nous avait racontées parce qu'on les avait pas vues. Tu te dis, mais merde, pourquoi la Coupe du Monde en 90, on n'y va pas? C'est quand même dingue. Et puis, bim, t'enchaînes avec le drame de 93 et tu vas pas aux États-Unis. Boum, là, ça faisait mal.
D'autant plus que les clubs marchaient.
Ça a été décevant, en plus.
Ouais. Les clubs marchent bien.
Quand t'achetais le jeu vidéo sur Amiga, la Coupe du Monde, Atari, enfin les consoles de l'époque, t'étais obligé de prendre la Yougoslavie pour faire jancer la France parce qu'ils jouent en bleu. C'est terrible. C'est terrible.
Bon, on en reste là. Moi, je retiens quand même qu'entre Julien et Polo, il n'y a que 3 ans d'écart. Et ça, c'est quand même la vraie info. Dans un instant,
et pour lui, on n'est pas de la même génération du coup.
Oui, non. Je tiens à ce que Polo reste pour le blind test. Vu la programmation musicale, j'ai envie qu'il reste avec nous. Voilà. Polo, tu restes?
Oui.
Très bien. Tout de suite.
Donc, Dark Commissar.
RMC, 18h-20h. Team du gars. Tout RMC en podcast.
En podcast. Sur l'appli RMC.
Bah oui, Julien, il y a 3 ans d'écart et dans 3 ans, ça fait une génération.
C'est un monde.
Mais voilà, c'est ça.
3 ans, c'est presque une Coupe du Monde. Hein. L'écart entre deux.
Bien vu. Du
et coach, t'arrêtes de jouer en quelle année, toi?
J'arrête de jouer en 86.
86, d'accord. Et
mais voilà, fallait sélectionner Roland.
Non, mais t'as jamais été proche des Bleus? Il y a une histoire, non, avec un blessé.
Bah 82, non, quand t'es champion.
Non, avec Curbelo, il n'y a pas une histoire.
Avant,
75.
Avant. Ouais, voilà. Ouais.
Mais Roland, il est champion en 78 et 82, non?
Ouais,
c'est pas ça? Ouais, c'est ça.
En 82, t'aurais pu y aller.
J'y suis une seule fois et je suis sur le banc, donc je rentre pas. Et Curbelo, qui joue à la place que j'aurais pu jouer, il est blessé à la fin, il tient pendant les 15 dernières minutes. Moi, je savais qu'avec Trésor et Lopez, c'était difficile donc d'être titulaire en équipe de France pour moi. Et donc, je suis pas rentré une minute, donc sur mon CV, il n'y a pas international A.
Comme Jurietti, pour une minute, c'est terrible.
On va plus retenir Jurietti que Courbis.
Et Curbelo, 3 semaines après, s'aperçoit qu'il n'aurait pas dû être sélectionné parce qu'il avait déjà été sélectionné en Uruguay.
Oh, c'est terrible, ça.
c'est un petit peu ma vie qui commence.
Bon, il y a eu des succès aussi, coach.
Ouais, oui, des hauts, des bas.
Des histoires.
Des histoires qui sont des anecdotes. Et en plus de ça, dans la vestiaire, je lui dis carrément, j'ai dit, Carlos, tu peux pas sortir, tiens mal. Mais pourquoi ça compte pas quand tu es sur le match? Je vais pas avoir 50 de sélection.
Et voyant qu'avec les Bleus c'était compliqué, t'as pas voulu tourner vers la Grèce, ton deuxième pays?
Non.
Bah non.
C'était difficile parce que là ils avaient eu du mal à trouver mon grand-père. Tu vois pas s'ils se mettent à chercher ma grand-mère.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, Tim Dugas continue. C'est le moment que tout le monde attend, bien évidemment. C'est le blind test, mon ami. Vas-y, envoie la sauce.
Alors, nous faisons l'équipe Dugarry-Yolo et l'équipe Cazard-Polo-Courbis. Julien, tu es bien entouré.
Ah bah sur 100 mètres, là on gagne déjà nous. Hein.
Avec vous en plus, Vincent est là. Salut Vincent.
Oui, bonsoir à tous. Merci de me recevoir.
Bah, avec plaisir, Vincent. Bonsoir, tu veux faire équipe avec qui?
Avec Dugas, bien sûr. Pourquoi? Parce que.
Oui. Parce que t'es expert tellement... comptable.
Ouais, non, mais on dit tellement de mal de lui alors que c'est quelqu'un d'exceptionnel et je pense que je suis pas son frère ni son cousin, j'ai pas été payé, je vous rassure de suite, mais non, je garde une très bonne image de lui en tant que sportif. Il y a plus de joueurs comme lui, ça existe plus, ces joueurs de foot là. Ouais, ils sont provocateurs, techniciens, tout ça, ça on voit plus et ça manque énormément au football.
Bravo pour tes mots, voilà. Vincent. Bravo. Merci, Vincent. On rappelle que tu es expert comptable en Gironde et que tu as peut-être besoin d'un futur client. Pas de souci.
Oui, bien sûr, j'aurai un tarif spécial pour sa déclaration d'impôt. Là, on a encore le temps.
Très bien. Ali est là également. Salut Ali.
Salut tout le monde.
Toi, bonsoir Ali. Tu es avec l'équipe éclectique. Cazard, Polo, Courbis. Ouais.
Ouais. C'est royal.
C'est éclectique. C'est royal. Hein. Oui.
Alors Polo, je t'explique le principe. On met une chanson, il faut trouver l'artiste. Et après, il y a une question foot qui est liée. Ok.
Ouais, vas-y.
Allez, c'est parti.
Brandy.
Ah oui, bien joué.
Oh, bravo. Ah,
merde. C'est Ali.
Bravo. Ali.
Bravo Ali. Joué, Ali. Brandy et Monica. Polo, t'aimes bien?
C'est pas de la musique, ça.
Alors, t'as pas fini de le dire, hein. Je préfère te prévenir.
Non, mais moi, tu sais, à part Serge Reggiani, c'est compliqué.
Ah, oui.
C'est l'italien.
Tu peux te refaire sur les questions foot. Titre sorti en 98, The Boy Is Mine. Donnez-moi un buteur autre que Ronaldo lors de la finale de C3 Inter Lazio, remportée par l'Inter 3-0.
Djorkaeff.
Non.
Zanetti.
Oui, Zanetti, Julien.
Je suis là, papa.
Bien joué, Julien.
2-0 pour l'équipe Cazard. Polo Courbis, il y avait Zamorano également. Ah ouais. Voilà.
Aïe. 2-0.
Zaza. Dugas et Daniel, vous pouvez vous refaire. Voici une nouvelle chanson.
Attendez.
Non, enchaîne. Chanson. Il faut l'artiste.
Serge Reggiani.
Matthew Stone.
Dugas. Allez, Polo, mets ça à fond dans tes oreilles. Regarde-toi. Matthew Stone, arrête Midoru. Tu voulais dire, Polo, juste avant la chanson?
Tu m'as dit, tu dis la finale de l'UEFA 97?
Oui, 98.
Ah, 98, pardon, pas 97,
ouais.
Pardon.
Ah ouais, d'accord, j'ai plus rien à dire. Décalage, ok.
Non, là, t'allais dire, c'est Dortmund.
J'ai l'impression qu'avec un léger décalage, coach nous a redit Matthew Stone, mais une minute après. Stone,
non, mais j'étais en train de réfléchir. Manusson, je connais Matthew Stone.
Ah oui. Alors, Dus, donnez-moi un joueur de foot prénommé Matt.
Hummels.
Matt Pokora. Ah oui, Matt Hummels. Daniel, bien sûr.
Non, c'est Matt.
C'est pas Matt.
Non, c'est pas mal.
Ouais, je l'autorise. J'ai dit que c'était gagné.
Mais non. Toujours Valbuena, moi.
Excusez-moi, c'est moi l'arbitre.
Ah pardon, oui, c'est vrai.
Donc j'ai dit que c'était bon. Donc ça fait 2-2. Voilà.
Attends.
Qui moi?
Non, mais peut-être qu'il s'appelle Matt Hummels. Peut-être.
Ouais, c'est Hummels, c'est ça.
Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Et sachez qu'avec le contexte actuel, il y a deux partout.
Ouais, les yeux d'aujourd'hui.
Voilà, exactement. Deux partout, nouvelle chanson.
Angèle.
Non.
Christian
The Queen.
Oui,
c'est The Queen. Mais t'es trop fort, du gars. 3-2.
Il n'y a que lui qui joue. Hein, parce que nous, on attend la question foot. Moi, j'attends la question foot.
Et mon comptable préféré, il peut jouer aussi. Hein.
Bah, bien sûr, Vincent.
Non, puis pas la blague.
Ouais, tu l'as dit. Pas la blague de Jean-Louis. Hein.
Non, mais t'inquiète pas, on sait partager les blagues. Polo, un avis sur Christine and The Queens?
Chico, je le découvre. J'ai l'impression d'être dans une bagnole,
d'Argentine à Allemagne.
Dans une bagnole avec un seul CD, c'est ça que tu dis?
Ouais, c'est ça.
Sorti en 2014, Christine and the Queens, Christine donc. Qui est le meilleur buteur du mondial 2014? Close.
Müller.
Non. Un Sud-Américain. 14.
Ah, Rames, non?
Oui, Rames Rodriguez.
Ah, bravo.
4-2 pour l'équipe du Gary Courbis. Coach, bravo, c'était Rames Rodriguez, la réponse.
Très bien.
Nouvelle chanson, on y va. Ça va aller vite.
Ayam.
Ah bah oui, je lui ai dit que ça irait vite.
De toute façon, là, j'aurais pas répondu.
Ouais, ah, bah ça, tout le monde connaît ça, j'espère.
Pardon. Quand tu prends ton accent marseillais, t'écoutes pas ça?
C'est le rare que j'aurais pu deviner.
Ah ouais, la coach, c'était pour toi. Ouais.
Ah oui.
petit frère donc. Question donc sur l'OM, puisque Yann est grand supporter de l'OM bien sûr. Toute compétition confondue, qui finit meilleur buteur cette saison de l'OM?
Quelle saison?
Actuel.
Payet.
Non, Payet du gars, bien sûr. Le génie.
Benetto.
Oui, Vincent,
Benetto,
merci. Benetto. Payet, on a déjà
et pourtant, je supporte pas Marseille. Hein. Moi, je suis à fond Bordeaux, hein, je vous le dis de suite.
D'accord. Non, mais alors déjà, c'était Benedetto.
Non, Julien Bento, il est pour Marseille.
Et Bento est pour Marseille, effectivement. Mais de toute façon, la réponse était Payet. Ça fait donc. 6-2.
Pas l'année.
6-2. La saison actuelle, je vous ai dit. On va faire une dernière chanson pour le
la saison actuelle, il n'y en a pas.
D'accord.
Je fais un recours à l'UEFA avec Jean-Michel Aulas.
Ah oui.
Ah oui, il y aura une saison blanche.
Je propose une saison blanche pour aujourd'hui.
Il y aura peut-être raison à la fin. Allez, dernière chanson.
Ah putain, alors c'est pas contre, ça,
j'ai pas non, pas Calogero.
Non. C'est un vainqueur de télé-réalité.
Ah, le Marshall. Le Marshall.
Grégory Duga, bien sûr. Grégory Le Marshall.
C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment eu.
Les choix musicaux, là,
que
c'est
de la daube.
Non. Non. Un joueur de foot prénommé Greg, en dehors de Greg Coupé.
Pesnet.
Oui, bien joué, Julien.
J'étais chercher un mec.
C'est la 3 grâce à Greg Pesnet.
On est large devant, là, de toute façon.
Vincent, on t'envoie un t-shirt RMC. Vous avez gagné, Daniel, effectivement. Ah, et Vincent, on attend des ristournes pour notre déclaration.
Bravo, Vincent. Bravo, Daniel.
Bien bravo, Polo.
Merci. Voilà, je vous remercie. Super.
Bravo, Roland.
Salut, les gars.
À bientôt, les amis. Merci, tout le monde. Merci, Polo. Merci, coach Courmis.
Salut.
Julien Cazard et Duga. À demain, 18h.
À demain, salut, Poulet.
Team Duga revient. Ciao à tous.
RMC 18h-20h Team Duga.